Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Le Droit, la Presse et Radio-Canada. Au programme, les archives de David Bowie auront leur musée en 2025, Forteresse Canada, Oreilles grandes ouvertes, et pourquoi les grands maîtres ajoutaient-ils du jaune d'œuf à leurs œuvres? Bonne écoute!
Les archives de David Bowie auront leur musée en 2025. Un texte de l'agence France-Presse paru le 23 février 2023 dans Le Droit. Costumes, photos, lettres, plus de 80 000 pièces des archives de David Bowie ont été transmises au Victoria and Albert Museum, qui ouvrira en 2025 un lieu dédié à Londres, a annoncé jeudi le musée. La création de ce David Bowie Center for the Study of Performing Art, dans l'est de Londres, va offrir un accès inédit à un fonds qui retrace le processus créatif d'un innovateur de la musique, une icône de la culture, pour le grand public comme les chercheurs, a souligné le musée dans un communiqué. Il regroupera des pièces comprenant paroles manuscrites, lettres, partitions, instruments et récompenses, mais également des costumes comme ceux de Ziggy Stardust de 1972 ou des créations pour la tournée Aladdin Sane l'année suivante. Ces archives de l'artiste mort en 2016 comprennent 70 000 photos, impressions, négatifs et planches contact des plus grands photographes du 20e siècle, de Terry O'Neill à Brian Duffy, en passant par Helmut Newton. Le V&A est ravi de devenir le gardien de ces archives incroyables et de pouvoir les ouvrir au public, a déclaré le directeur du musée, Tristram Hunt. Les innovations radicales de Bowie à travers la musique, le théâtre, le cinéma, la mode et le style, ellipse, continue d'avoir une influence sur le design et la culture visuelle et inspire des créateurs comme Janelle Monáe, Lady Gaga, Tilda Swinton ou Raf Simons, a-t-il ajouté. Cette opération a été rendue possible grâce aux héritiers de David Bowie et un don de 10 millions de livres sterling, environ 16 millions de dollars, de la part de la Blavatnik Family Foundation and Warner Music Group. C'était les archives de David Bowie auront leur musée en 2025, un texte de l'agence France-Presse paru le 23 février 2023 dans Le Droit.
Forteresse Canada, un texte de Laura Julie Perrault, paru le 25 mars 2023 dans La Presse. Le chemin Roxham n'a jamais été ouvert. Il faut se rendre sur place pour comprendre. L'endroit où des milliers de migrants ont traversé la frontière depuis 2016 était un croisement entre un champ de patates, un no man's land et une arrière-cour d'écurie. Pour beaucoup, ce petit chemin de terre était la route de l'espoir, souvent après un long et âpre voyage à travers l'Asie, la Méditerranée, les Amériques. Ceux qui l'empruntaient des États-Unis vers le Canada savaient que la distance à parcourir à pied était courte, qu'ils allaient être appréhendés par la gendarmerie royale du Canada, mais qu'ils auraient rapidement le droit de demander l'asile. ce qui rendait le petit chemin de Montérégie attrayant aux yeux de beaucoup, c'était justement sa prévisibilité. Une rareté sur les routes tortueuses de la migration internationale. Pas de crocodiles ou de gangs armés. Pas d'embarcation de fortune qui prend l'eau. Juste un chemin de terre et un policier au bout, plus amical que répressif. J'écris mes premiers paragraphes au passé, parce que dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit et une minute, le chemin Roxham, qui n'a jamais vraiment été ouvert, s'est transformé en mur. Depuis minuit une, toute personne qui n'est pas canadienne ou américaine et qui voudrait franchir la frontière entre deux postes officiels, comme au chemin Roxham, se heurtera à ce mur, sans savoir ce qui l'attend après. À Ottawa, vendredi, Joe Biden et Justin Trudeau se sont félicités de travailler ensemble pour assurer la sécurité des frontières et renforcer la migration régulière. C'est en ces termes qu'ils ont annoncé les modifications à l'entente américano-canadienne sur les tiers pays sûrs qui, depuis 2004, oblige les demandeurs d'asile à demander la protection dans le premier des deux pays qu'ils foulent. L'entente, qui ne s'appliquait qu'aux postes frontières officiels, englobe maintenant les deux frontières en entier. Les deux dirigeants y voient une manière de colmater une brèche. François Legault, lui, parle d'une victoire pour le Québec qui, jusqu'à tout récemment, recevait la grande majorité des demandeurs d'asile arrivés de manière irrégulière. Vous m'excuserez si, pour ma part, j'y vois plutôt une série d'aveuglements volontaires. Ni M. Biden, ni M. Trudeau n'ont rappelé que l'entente sur les tiers pays sûrs était devant la Cour suprême du Canada, qui devra trancher si elle respecte la Charte des droits et libertés du pays. Notre argument, c'est que les États-Unis ne sont pas un pays sûr où renvoyer les demandeurs d'asile, et c'est sur ce point qu'un juge de première instance nous a donné raison, notamment à cause des conditions de détention imposées aux migrants, rappelle France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International pour le Canada francophone. Et la situation n'est pas en train de s'arranger au sud de la frontière, où Joe Biden vient de donner un tour de vis pour restreindre le droit de demander l'asile. Selon les nouvelles règles, ceux qui n'auront pas demandé l'asile dans un pays de transit, comme le Mexique, avant d'arriver à la frontière américaine, seront refoulés. Ceux qui tentent d'entrer dans le pays de manière irrégulière, plutôt que d'attendre pendant des mois un rendez-vous à la frontière, seront aussi exclus. La mesure est tellement dure qu'elle lui a valu le surnom d'asylum ban, ou embargo sur l'asile, dans les milieux progressistes. Ce surnom fait écho au « Muslim ban » de Donald Trump, une mesure que le président républicain avait adoptée pour freiner la venue aux États-Unis de ressortissants de plusieurs pays musulmans. Dans de telles circonstances, qu'arrivera-t-il aux migrants qui seront refoulés vers les États-Unis selon les nouvelles modalités de l'entente canado-américaine? Pourront-ils demander l'asile? J'ai passé la journée de vendredi à poser la question à des experts de l'immigration au Canada et aux États-Unis et personne n'avait la réponse. Autre angle mort. L'effet à long terme des nouvelles règles qui prévoient que les migrants peuvent être refoulés dans les 14 jours qui suivent leur entrée au pays de manière irrégulière. les passeurs doivent se lécher les babines. Combien offriront aux migrants de les aider à passer la frontière de manière clandestine? Il y a du choix. La frontière canado-américaine fait 9000 kilomètres de long pour ensuite les cacher jusqu'à ce qu'ils puissent se présenter aux autorités. Et qui pourra déterminer si quelqu'un est sur le territoire depuis plus de 14 jours? On ne reçoit pas un tampon dans son passeport quand on arrive dans un champ en pleine nuit. Ça sent déjà le profit pour les exploiteurs, le danger pour les migrants et les maux de tête pour les policiers. Et que dire d'un autre oubli sous-jacent? Celui de nos obligations internationales. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais vu autant d'êtres humains se déplacer pour se mettre à l'abri de la guerre, de la persécution et de cataclysmes divers. On parle de 90 millions de personnes en exil forcé. La grande majorité trouve refuge dans un pays voisin, mais certains atteignent l'Occident. L'an dernier, ils ont été près de 90 000 à frapper aux portes du Canada, dont 40 000 au chemin Roxham. Pas exactement la mer à boire dans un pays qui accepte, bon an mal an, de 300 000 à 500 000 immigrants qualifiés. Et rappelons-nous que nous avons signé des conventions internationales qui nous empêchent de les refouler, de les retourner à leur sort. Longtemps, le Canada a été un modèle dans ce domaine. Le meilleur par défaut, comme je l'écrivais dans un récent dossier. Dans ce système d'immigration et de droit d'asile, il y a beaucoup de progrès à faire pour le rendre meilleur, plus efficace, pas pour le transformer en forteresse. C'était Forteresse Canada, un texte de Laura Julie Perrault, paru le 25 mars 2023 dans La Presse. Oreilles grandes ouvertes. Un texte de Rose Aimé, Automne, T. Morin, paru le 19 mars 2023 dans La Presse. Les relations interpersonnelles, c'est tellement compliqué. Si tout le courriel m'a plu, cette phrase m'a particulièrement fait sourire. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de simple dans le fait d'interagir avec autrui. Le message provenait d'une lectrice nommée Céline Germain et il portait sur les défis de la communication. Je réalise que nous avons beaucoup de misère à écouter. Les gens aiment parler d'eux, mais prendre de tes nouvelles, c'est plutôt rare. Souvent, on commence à parler et la personne devant nous pense déjà à ce qu'elle veut dire. Elle n'est pas en mode écoute. Puis, à la fin de son courriel, Céline me demandait comment pourrait-on apprendre à écouter l'autre en le regardant dans les yeux avec un intérêt sincère. À court de réponse, j'ai demandé à deux experts qui enseignent les compétences interpersonnelles de nous offrir un cours en accéléré. Et d'entrée de jeu, je précise qu'ils ont adoré la requête. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « Cette lectrice est très intelligente », m'a lancé Francesca Capozzi. Quelle excellente question! La psychothérapeute et professeure au département de psychologie de l'UQAM estime qu'on tient l'écoute pour acquise, mais qu'on la comprend assez peu. Une communication efficace, c'est une communication dans laquelle on est capable d'exprimer nos besoins de manière claire et authentique, puis d'entendre les besoins de l'autre. L'écoute est donc une part importante de la communication efficace, mais c'est difficile d'écouter, selon Francesca Capozzi. C'est d'ailleurs pourquoi Pierre Coury, chargé de cours au département de psychologie de l'Université de Montréal, nous invite à écouter consciemment. La première étape est de se mettre en mode de réceptivité, dit-il. Sur le plan psychologique, ça demande une conscientisation de notre intention d'écoute. Concrètement, on peut se parler à soi-même avant de jaser avec quelqu'un, se dire que c'est l'heure d'être un peu en retrait. Mais on a beau être tout ouïe, comment prouver à notre interlocuteur qu'on l'écoute pour vrai? Francesca Capozzi s'intéresse beaucoup à la communication non-verbale. Son premier conseil est donc de regarder l'autre dans les yeux. Or, dans certaines cultures, c'est un geste trop intime, où il se peut qu'on ne soit pas à l'aise de croiser longuement le regard d'autrui. Dans ce cas, on peut regarder la bouche de la personne, suggère la professeure. Des recherches démontrent que ça nous aide à rester concentrés et que ce n'est pas considéré comme un geste envahissant. Et si on est très gêné, on peut toujours regarder par terre. Mais c'est alors important d'ajouter d'autres types de messages, comme hocher souvent la tête ou faire des sons. On parle ici de « mm-hmm », pas de son de train, mettons. Toujours dans la lignée des messages verbaux d'écoute active, la psychothérapeute Francesca Capozzi croit en l'importance de paraphraser ce qu'on entend. Ce que je suggère souvent à mes clients, surtout quand je travaillais avec des ados et leurs parents, c'est de reformuler dans leurs propres mots ce que l'autre a dit. Ce procédé permet à tout le monde de se savoir entendu ou, mieux encore, compris. Pierre Coury recommande, quant à lui, d'adopter des questions ouvertes, soit des phrases qui commencent par « qui »,« quoi », »,« où », »,« comment », etc. La question ouverte démontre non seulement de l'intérêt sincère pour l'histoire de l'autre, mais elle agit aussi comme une invitation à se dévoiler davantage, explique-t-il. Parce qu'il faut savoir que l'empathie est un outil très puissant. L'intimité ou la sensation de proximité à l'autre est souvent associée à la variable du dévoilement de soi dans la littérature scientifique. Il y a un mouvement circulaire qui fait en sorte que plus une personne se sent vue et entendue, plus elle risque de se dévoiler et de créer un effet réciproque chez son partenaire. Selon Pierre Coury, chargé de cours au département de psychologie de l'Université de Montréal. Mieux on écoute, plus on se lit. En même temps, Céline Germain l'a bien mentionné dans son courriel, on a parfois tendance à prendre trop de place. C'est difficile de se retenir de parler de soi-même, et il n'y a rien de mal dans le fait d'avoir envie de jaser, on s'entend. Pierre Coury nous recommande simplement de ralentir notre prise de parole. Parce qu'au fond, en interrompant autrui, on passe à côté de quelque chose de beau. On perd l'occasion précieuse de connaître l'autre personne, résume Francesca Capozzi. Quand on change de perspective et qu'on comprend que l'écoute est à propos de l'autre et non de nous, une fenêtre s'ouvre soudainement sur le monde de l'autre. Rendu là, ça se pourrait qu'on souhaite embellir le dit monde. Qui n'est pas coupable d'avoir offert un conseil non sollicité? C'est une erreur aussi commune que fallacieuse, selon la professeure et psychothérapeute. C'est un réflexe. Tu le fais parce que tu penses aider, mais tu es encore concentré sur toi et sur ce que tu veux dire. Tu n'es pas dans l'écoute. Vaut donc mieux demander à notre interlocuteur ce qu'il espère de nous, une opinion, un conseil ou notre simple attention. D'ailleurs, ce qui me frappe avec tout ce nouveau savoir, c'est à quel point écouter exige de l'énergie. Ce qui nous mène à une autre faute très commune. On fait souvent l'erreur d'être distrait sans le dire, estime Francesca Capodi. On n'a pas nécessairement toujours l'énergie pour écouter, mais il faut le préciser. Et ça peut se faire avec beaucoup d'amour. J'ai eu une journée très intense et j'ai juste une moitié de cerveau. Je peux essayer de t'écouter, mais je ne peux pas garantir d'être là à 100%. La vérité, c'est qu'on est tous et toutes faillibles quand vient le temps d'écouter. Je termine avec les sages mots de Pierre Coury. Dites-vous que la communication empathique est une habileté qui se développe. Ne vous en faites pas si ce n'est pas parfait. Votre simple tentative démontrera un intérêt sincère. Et n'est-ce pas juste ce qu'on cherche chez l'autre, au fond? Un intérêt sincère? C'était « Oreilles grandes ouvertes », un texte de Rose Aimée, Automne, T. Morin, paru le 19 mars 2023 dans La Presse. Pourquoi les grands maîtres ajoutaient-ils du jaune d'œuf à leurs œuvres? Un texte paru dans le site de Radio-Canada le 28 mars 2023. Des peintres de la Renaissance, notamment Léonard de Vinci et Sandro Botticelli, ajoutaient du jaune d'œuf à leurs peintures parce que les protéines qu'il contient permettaient de combattre l'humidité, le jaunissement et le plissement de la surface montrent les travaux de scientifiques européens. Ainsi, dans l'œuvre « La lamentation sur le Christ mort » de Sandro Botticelli, la chair et certains éléments de la tête du Christ montrent l'accumulation typique d'une couche d'empâtement associée au jaune d'œuf et l'application de la peinture par hachure. La chair et les détails des pieds de Saint Jean, dans l'œuvre de Botticelli, montrent aussi l'accumulation d'une couche d'empâtement associée au jaune. On savait que les grands maîtres de l'époque utilisaient de l'huile comme liant dans leur peinture, ce qui permettait d'agglutiner les pigments de couleur. D'autres substances étaient parfois utilisées, par exemple la résine, qui apportait du brillant et augmentait la transparence. Toutefois, des protéines ont également été détectées dans un grand nombre de leurs œuvres. Or, les raisons pour lesquelles ils ajoutaient des protéines dans leur processus de peinture demeuraient mystérieuses à ce jour. Les techniques de peinture des anciens maîtres étaient transmises dans les ateliers, mais elles se sont perdues au fil des époques, notent les chercheurs, dont le détail des travaux est publié dans la revue Nature Communications en anglais. Si les pigments, les liants et les techniques utilisées à l'époque sont grossièrement connus, bien peu de détails sont parvenus à nos jours. Les travaux de l'ingénieure mécanique française Ophélie Ranquet et de ses collègues de l'Institut Karlsruhe de technologie en Allemagne ont permis d'étudier l'effet de l'ajout de matières protéiques sous forme de jaune d'œuf aux peintures à l'huile. Leur travail a permis de constater que les protéines de l'œuf forment une fine couche autour des particules de pigments de couleur, ce qui empêche l'absorption d'eau particulièrement dans les environnements humides. L'ajout de quelques gouttes de jaune d'œuf permet aussi d'obtenir des peintures plus rigides, ce qui permettait de l'appliquer en couches épaisses pour produire du relief. De plus, les antioxydants contenus dans le jaune d'œuf contribuent à prévenir le jaunissement lors du séchage de l'œuvre en ralentissant la réaction entre l'oxygène et les différents composants de l'huile. L'œuf agit comme un antioxydant qui ralentit le début du durcissement et qui favorise la formation de réseaux réticulés moins sujets à la dégradation oxydative que l'huile seule, ce qui a amélioré la préservation d'œuvres d'art inestimables, expliquent les auteurs de ces travaux. Les chercheurs estiment que leur étude améliore notre compréhension des raisons pour lesquelles ces artistes ont ajouté des protéines, telles que le jaune d'œuf, à leur peinture à l'huile. En plus de permettre de mieux comprendre le travail de manipulation des matériaux derrière la création de ces œuvres d'art, ces connaissances pourront aussi aider à leur préservation et à leur conservation, pense-t-il. C'était « Pourquoi les grands maîtres ajoutent-ils du jaune d'œuf à leurs œuvres ?» un texte paru dans le site de Radio-Canada le 28 mars 2023.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Claire Dorion à la lecture, Diane Métaillé et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.